Bonsoir. Il l'avait promis durant la campagne et ce n'est donc pas une surprise. Donald Trump se retire de l'accord sur le nucléaire iranien. Alors est-ce qu'une période d'incertitude géopolitique va s'ouvrir ? Mort ou pas mort, cet accord en tout cas, certains veulent le faire vivre. Malgré tout, les Européens, les Russes, les Chinois. Alors si c'était attendu des États-Unis, cette décision, peut-être la rapidité, l'ampleur des sanctions ne l'était pas. Avoir sanctions extraterritoriales, expliquait cet après-midi Bruno Le Maire. Alors comment ceux, les Européens, qui vendent des voitures, des Airbus, vont-ils continuer à pouvoir le faire en direction de Téhéran ? Est-ce que c'est un coup dur pour les entreprises ? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, c'est le dossier du jour. Hein. Alors, pas de panique sur les marchés. Hein. Vous l'avez suivi évidemment sur BFM Business. Paris en progression de 0,2%. Même, on regardera aussi le pétrole, justement. C'est peut-être ça aussi qui a servi aussi à faire grimper les indices. Et encore une fois, ben, toutes les réponses aux questions que vous posez sur cet énorme dossier, justement, et comprendre la stratégie aussi de Donald Trump. Pierre Servent est avec nous, tout naturellement, auteur de 50 nuances de guerre. Hein. D'ores et déjà un best-seller. C'est son dernier opus qui vient de sortir. Olivier Appert, membre de l'Académie des technologies, conseiller du Centre Énergie de l'IFRI. On est avec Nigel Coulthard, à la tête du think tank CIE, le Cercle Iran Économiste, un consultant en management international. Il a présidé également Alstom en Iran. Et puis on va retrouver dans un instant aussi Christophe Heck, associé dans le grand cabinet d'avocats international Gide Loiret. Alors, je cite Laurent Fabius, l'ancien chef de la diplomatie française, qui avait signé justement cet accord sur le nucléaire. Il est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, que disait-il ? La décision unilatérale, je cite, de Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien, elle est gravissime pour la stabilité du Moyen-Orient et la crédibilité des accords internationaux à venir. Pierre Servent, quelles conséquences immédiates et à terme déjà sur la stabilité de la région ? Qu'est-ce qui peut se passer ?
Alors, sur le plan immédiat, on va en débattre. À terme, je vais être brutal, mais c'est la guerre. Des formes de guerre, oui. Je crois que c'est vraiment une décision. Alors, je suis désolé de contribuer au pessimisme qui se développe depuis hier au côté noir, mais les propos du président Trump, c'est pas tant la dénonciation de l'accord, c'est tout son discours autour dénonçant le régime iranien comme fauteur de troubles, d'hégémonie, enfin responsable d'hégémonie dans la zone et responsable du terrorisme, que j'ai entendu comme une sorte de déclaration de guerre. Et il y a deux pays qui boivent du petit lait, deux pays qui hier encore étaient antagonistes, l'Arabie Saoudite, chef de file du clan sunnite, et depuis 50 ans, grand propagateur de toute la pensée radicale wahhabite salafiste, qui a donné naissance quand même à deux courants véritablement terroristes, Al-Qaïda et Daesh. Et puis donc le régime israélien, Benjamin Netanyahou, dans une posture extrêmement musclée, pratiquant comme Trump les fake news.
Voilà, donc on est dans ce paysage-là. Il avait présenté la semaine dernière, Netanyahou, un dossier à charge contre Téhéran, sans preuve flagrante. Hein.
Voilà, exactement. Alors, si je parle de guerre, c'est parce que ce que ce courant-là vient nourrir, c'est ce que j'appelle dans mon livre le courant de ceux qui veulent en découdre. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils veulent la guerre tout de suite, demain, que l'Arabie Saoudite va attaquer l'Iran dans la matinée. Enfin, Israël frappe quand même de plus en plus régulièrement des intérêts iraniens en Syrie.
Attendez, c'est vrai, je ne sais pas si un rapport immédiat après la décision annoncée par Donald Trump donc hier soir, mais cette nuit, une frappe a été attribuée à Israël près de Damas qui a tué 15 combattants pro-régime étrangers, dont 8 iraniens, justement.
Voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, et je termine sur ce plan-là, c'est dire qu'il y a une logique de guerre qui est enclenché là-dedans, avec aussi des changements d'alliance stupéfiants, parce que vous avez donc Trump, l'Arabie Saoudite, antisémite, antisioniste, qui se rapproche d'Israël, mais qui, d'une certaine façon, fait le jeu des passes d'Aran, c'est-à-dire des plus radicaux de l'Iran. Donc vous avez ce clan, et de l'autre côté, vous avez les trois Européens renvoyés, entre guillemets, chez les Chinois et les Russes, avec lesquels on a quand même quelques dossiers, quelques contentieux. Et là aussi, c'est une illustration de ce grand désordre international que nous avons, où tous les mois, vous avez des changements d'alliance, des retournements en fonction des intérêts du moment. Et tout ça, c'est facteur de guerre, c'est générateur de guerre. Regardons ce qui va se passer avec le Hezbollah au sud Liban. Vous avez des forces internationales.
Le Hezbollah qui a gagné les élections législatives samedi au Liban.
Est en pointe. Le détroit d'Hormuz, vous savez que depuis très longtemps, les Iraniens ont aménagé des îlots secrets dans le détroit d'Hormuz, à partir desquels ils peuvent lancer des commandos pour attaquer des bâtiments, des navires sur les intérêts américains. Et dernière chose qui nous mettrait dans une situation catastrophique, c'est que nous sommes alliés des Américains dans le nord de la Syrie, notamment, nous combattons, et nous nous opposons à nos alliés turcs de l'OTAN. Petite chose. Hein. Eh bien, si les Iraniens décident de conduire des actions terroristes, commandos, contre les intérêts militaires américains, nous sommes à côté, nous sommes avec. Donc, ça me fait dire que, voilà, on est sur des barils de poudre, et là, Trump, c'est pas une allumette, il a allumé un gros pétard au milieu de tout ça.
Alors, on verra justement jusqu'où ira Donald Trump. On se souvient qu'il y a quelques mois aussi, il y avait un risque de guerre mondiale avec la Corée du Nord, et puis finalement, les menaces de Trump ont-elles payé? En tout cas, ils vont se voir dans quelques jours. Voilà.
Alors, vous avez raison de montrer qu'il y a des dossiers.
J'essaie d'être optimiste même si quand même, malgré tout. Voilà. Donc, on verra juste où ils poussent peut-être les Européens à renégocier, justement.
Encore que l'exemple nord-coréen, ça pousse les Iraniens à se dire, pour être respecté de ce fou, il vaut mieux avoir des bombes
atomiques. Voilà.
Prenons votre optimisme.
J'essaie toujours. C'est un petit peu ce qui me caractérise. Olivier Appert, ce risque géopolitique, justement, vient de nous décrire Pierre Servent, qui n'est pas forcément de bon augure, assez pessimiste. Est-ce que c'est un risque géopolitique maintenant, de plus en plus, à prendre en compte? Quand on voit que les marchés, aujourd'hui, la bourse de Paris, je le citais, en hausse de 0,2%, alors portée par l'euro, portée grâce au pétrole, on reparlera de ça évidemment avec vous, il n'y a pas de réaction violente sur les marchés, c'était parce que c'était attendu, justement, les marchés s'habituent à ce risque géopolitique?
La situation géopolitique au Moyen-Orient est quand même particulièrement sensible. Il faut rappeler l'importance du Moyen-Orient pour l'approvisionnement pétrolier mondial. Et on constate que depuis quelques semaines, il y a eu une augmentation significative du prix du pétrole. Et donc cette décision était d'une certaine façon anticipée. Ceci étant, ça s'est traduit par une augmentation du prix du pétrole de l'ordre de 3% entre hier et aujourd'hui.
On en reparlera évidemment tous les dossiers économiques, mais est-ce qu'il y a un risque, une conséquence concrète pour l'approvisionnement en pétrole à partir du moment où les Américains maintenant risquent de brandir toutes sortes de sanctions? Quid justement du pétrole iranien?
Alors, le pétrole iranien, c'est de l'ordre de 2,5 millions de barils jour sur un marché total de 100 millions de barils jour. Ceci étant, les décisions qui ont 4%. Été prises par l'OPEP il y a 2 ans ont porté leurs fruits et aujourd'hui on se trouve dans une situation du marché qui est relativement tendue. Les stocks ont été significativement diminués. Et donc, le marché est quand même un marché extrêmement sensible avec des risques d'explosion des prix, c'est pas exclu.
Des risques de pénurie d'approvisionnement en pétrole après le retrait américain ou pas? Vous nous parlez de 2,5 millions de barils jour, c'est-à-dire 2,5% à peu près du marché mondial. C'était deux fois moins donc avant la signature de cet accord en 2013. Risque de pénurie d'approvisionnement ou pas? L'Arabie Saoudite promet de prendre toutes les mesures nécessaires d'ailleurs.
Alors l'Arabie Saoudite effectivement a de l'air sous la pédale et donc peut augmenter de 1 ou 2 millions de barils jour.
De 10 à 12 à peu près.
Par ailleurs, il y a la Russie aussi dans le cadre de l'accord qui a été de l'accord de l'OPEP non OPEP sur la réduction de la production a réduit sa production. Donc il reste quand même des capacités qui sont disponible. Ceci étant, ça risque quand même de mettre en cause la stabilité du marché pétrolier.
Bon, alors on va voir ça justement. Et l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien, on va en parler avec vous aussi, Nigel Coulthard, Jacques Christophe Hegde, où je vous annonçais il y a quelques instants, qui est avec nous. Qu'est-ce qu'on entend depuis ce matin? En effet, aux côtés de Trump, Israël qui salue la décision juste et courageuse. Et puis en face, ceux qui se sont battus justement pour cet accord, pour voir émerger cet accord en 2013. Non, cet accord n'est pas mort, disait le gouvernement français, donc tout au long de la journée. Benjamin Griveaux, c'est le porte-parole du gouvernement.
L'accord avec l'Iran n'est pas mort. Les États-Unis en sont sortis, ça n'est pas une surprise, mais je le rappelle, la France, ses partenaires européens, restent dans l'accord. L'accord n'est donc pas caduc, et nous voulons le préserver coûte que coûte, parce qu'il permet notamment la sécurité dans la région.
Alors, Emmanuel Macron s'est entretenu cet après-midi donc avec son homologue iranien, Monsieur Rouhani. Les Européens feront tout pour que l'Iran reste dans l'accord nucléaire, déclaration de Angela Merkel ce matin. Vladimir Poutine se dit profondément préoccupé. La Chine dit qu'elle défendra l'accord de Vienne. Et puis, du côté des intéressés, l'Iran ne restera pas sans garantie solide de l'Europe, disait le guide suprême Ramenei, Ali Ramenei. Vous avez commis une erreur, Trump, dit le guide suprême. Nigel Coulthard, est-ce qu'on peut casser l'accord? Est-ce que c'est juridiquement possible?
Laissez-moi revenir sur un point, s'il vous plaît.
Ah ben, je vous écoute. S'il vous
plaît. Parce que je suis un peu moins pessimiste.
Que Pierre Servan.
Que Pierre Servan et que les journalistes en général. J'ai l'impression que l'annonce hier soir de Trump avait comme but un effet d'annonce. C'était complètement coordonné avec l'envoi de l'ancien directeur du CIA en Corée du Nord.
Bien sûr.
Et coordonné également avec Israël pour le lancement sur des sites occupés par l'Iran. Voilà. Donc tout cela était ultra coordonné avec comme effet et comme objectif un effet donc de crise, de montrer son pouvoir. Donc, je pense, laissons-nous un petit peu de temps pour voir réellement la réalité des sanctions.
D'accord. On va voir tout ça. Alors, l'accord sur le nucléaire, simplement. On va voir tout à l'heure l'ampleur des sanctions, la réalité des sanctions. Parce que, comme vous le dites, en effet, il y a beaucoup d'agitation et on n'est pas très sûr de ce que veut exactement le président Trump. Quand il dit « je me retire unilatéralement », est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que c'est juridiquement possible? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche?
Il y a un certain nombre d'étapes qui peut prendre jusqu'à 6 mois à remplir. Je pense que c'est moins une question juridique qu'une question d'intention. Et on va revenir sans doute tout à l'heure sur les questions des sanctions secondaires. Et c'est ça l'année de la guerre. C'est les sanctions secondaires auprès d'autres nations que les États-Unis, d'autres sociétés qu'américaines, et c'est ça plutôt qu'un document juridique qui va être la base de l'avenir.
Les sanctions extraterritoriales, là. Exactement. Je cite à nouveau le ministre Bruno Le Maire, on reviendra sur ce concept également, il faudra nous l'expliquer. Christophe Heck, vous êtes associé, je le disais, dans le grand cabinet d'avocats international GIDE. Vous étiez encore hier, où ça?
À Téhéran.
À Téhéran, exactement, on connaissait très très bien là-bas. Cet accord, qu'est-ce qui va devenir?
Ça, je suis d'accord avec mon confrère. Avec Nigel. C'est que le sujet, il est bien sûr juridique et il y a des conséquences de la sortie, mais il est avant tout politique. On a eu des précédents en 96 avec Cuba et l'Iran, donc où l'Europe a pris des décisions, des lois de blocage, des sanctions américaines. La posture aujourd'hui politique est de dire on reste dans l'accord, on y croit fermement et on va continuer. Ça n'a de sens que si sur le terrain l'économie continue à tourner.
Les entreprises peuvent travailler, bien sûr.
Donc, l'enjeu c'est ça. Et ça c'est surtout c'est un point de savoir si l'Europe va être unie et va affirmer sa souveraineté et puis combattre le sujet sur lequel on va revenir tout à l'heure de l'extraterritorialité des mesures américaines. Bien sûr. Fondé ou non fondé.
À votre avis, est-ce que c'est une question que je posais tout à l'heure à Pierre Servan, qui constatait un certain optimisme de ma part. Est-ce qu'à votre avis, vous, l'avocat que vous êtes, et à cheval aussi sur l'Europe et l'Iran, est-ce que c'est une façon de pousser les Européens à renégocier cet accord, un petit peu ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse avec le président Trump à Washington il y a une dizaine de jours? C'est la méthode Trump, finalement, menacée pour arriver à ses fins?
Probablement, Trump, il est assez, il est à la fois prévisible et imprévisible. Mais
là, il est prévisible. Il avait
annoncé depuis un certain temps. Très longtemps, il avait même critiqué en 2015, alors qu'il n'était pas encore candidat. Je pense que pour moi, c'est une grosse maladresse. On n'est pas dans le contexte nord-coréen. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a quand même, sur le plan géopolitique, une fragilité dans la région, et on est sur une poudrière. Enfin, donc c'est assez maladroit et très malvenu. Forcer à négocier, c'est pas ce que on dit les Iraniens. On y arrivera peut-être. C'est vrai que l'accord en lui-même, si on regarde le bilan de deux ans, n'était pas satisfaisant pour personne.
En même temps, l'AIEA confirme que, c'est-à-dire l'Agence de l'énergie atomique, confirme que l'Iran remplit ses engagements en matière de nucléaire.
Je ne parle pas sur l'objectif, sur le plan des objectifs nucléaires, il est satisfaisant. En revanche, il n'est ni satisfaisant pour les entreprises qui investissent, ni satisfaisant pour l'Iran.
Qu'est-ce qui ne va pas ?
Les sanctions, enfin la situation un peu grise avec les États-Unis, les sanctions primaires pour les Américains, secondaires. Donc c'est pas
tout ça n'est pas net.
Compliqué de financer un investissement. On est toujours dans une zone un peu floue. On est toujours à la merci des sanctions, quand même. Donc l'avantage que je trouve de la matérialisation de ce que Trump a dit, c'est qu'au moins les choses sont claires. Pose le sujet sur la table et on va pouvoir essayer d'avancer.
Oui.
Donc, moi je suis plutôt si optimiste sur le moyen long terme. Ça pourrait être un peu compliqué à court terme.
Les Américains sont-ils isolés ou pas ce soir, Pierre Servent?
Ils sont isolés, oui et non. Ils ont donc l'Arabie Saoudite, Israël en soutien. Il y a des pays arabes, on parlait de Sultanat d'Oman notamment, qui a joué un rôle important dans les négociations secrètes de départ. Qui a une réaction un peu réservée. Effectivement, il y a les Européens qui pèsent, qui sont furieux. Enfin, donc effectivement, il est isolé ou pas, il s'en fiche d'abord parce qu'il a le regard aussi sur ses élections intérieures. Mais je vais continuer à être pessimiste en disant qu'en fait, on a raison de débattre de ce qui reste de cet accord, du fait de vouloir le sauver. Le gouvernement français a raison, les autres de dire il est vivant, il faut continuer à faire quelque chose. Mais ma conviction, c'est qu'il est mort. Il est mort parce que la logique vertueuse. Ô combien difficile, un peu moins de deux ans de négociations, de discussions pour arriver à cet accord qui a été très très compliqué avec les Français, la France de François Hollande, le remettant en cause jusqu'à la fin, avec Israël, disant vive la France, etc. Donc processus extrêmement compliqué. Cette logique vertueuse sur laquelle Rouhani jouait, en espérant également une amélioration de la situation du quotidien, sachant qu'il y a des protestations, des manifestations avec des morts, et manifestations qui viennent effectivement de manifestation du pain, pour faire simple. Donc voilà. Donc la dynamique vertueuse est cassée et le clan réactionnaire à l'intérieur de l'Iran, notamment les Pasdaran, qui sont une puissance militaire et surtout une puissance économique,
bien sûr.
Et qui sont eux aussi dans une posture assez radicale sur le plan de l'esprit, ils ne veulent pas que l'accord soit sauvé. Et ce qui est très préoccupant, c'est que dans le discours, aussi bien de Trump que de Benjamin Netanyahou, il y a une volonté de faire sauter le régime. En fait, l'accord est un prétexte. Il s'en moque totalement. C'est pas du tout le sujet. On a raison, nous, d'en discuter.
Est-ce qu'il veut vraiment faire sauter le régime iranien?
C'est ma conviction profonde. Mais attendez, c'est pas simplement une impression. Vous prenez le discours, y compris les dernières déclarations.
Il y a des durs qui prennent le pouvoir en Iran.
Non, je suis consterné.
Oui.
C'est pour ça que je vous parle de risque de guerre. Parce que c'est consternant dans le paysage. C'est encore une fois le combat entre ceux qui veulent en découdre et ceux qui veulent coudre. Rappelez-vous le président Macron à l'Assemblée générale des Nations Unies disant « Évitons de détricoter l'accord. Rajoutons des mailles. » Ce qui est le bon sens, ce qui est l'intelligence.
Il annonçait justement le prolonger jusqu'en 2025.
Mais exactement.
Essayons
d'intégrer les problèmes balistiques, effectivement, qui sont un problème. Non. Mais quand vous prenez le discours de Trump, il dit le peuple perse, le peuple iranien est respectable, mais leur régime depuis 79 est un régime honteux. Et il faut, comment dirais-je, bien comprendre que chez Trump, qui réagit comme un homme de la rue, comme un homme américain de la rue. Trump, il a aucune expérience internationale en dehors des affaires. Il ne comprend rien aux questions géopolitiques. Il joue aux dames. Il ne sait pas jouer aux échecs sur le plan international. Et il réagit comme l'américain moyen. Et l'américain moyen, ce qu'il a dans la tête par rapport à l'Iran, c'est 79. C'est la capture des diplomates américains, etc. Donc il y a cette espèce d'obsession. Et donc, ma crainte, c'est que comme en plus il a deux alliés, l'Arabie Saoudite avec Mohamed Ben Salman, dont nous en avions parlé ici, alors qui porte certains espoirs de renouveau, mais qui soude le clan sunnite, exclut les Qatars comme trop proche de l'Iran pour s'opposer à la construction de ce mur, de cet arc perse qui s'est mis en place. Et c'est là où, si vous voulez, la mécanique de guerre entre guillemets elle est enclenchée face à tous ceux qui essayent de dégager une mécanique de diplomatie et d'économie. Et dans le contexte international, avec des instances internationales de dialogue qui sont affaiblies, ma crainte, c'est que, in fine, d'accidents, d'attentats, d'erreurs, de trucs qui dérapent, on débouche sur une guerre plus ouverte.
Nigel Coulthard, vous avez entendu tout de suite Christophe Heck, et tous les deux, vous allez régulièrement en Iran, Christophe Heck, qui nous disait... Cet accord sur le nucléaire, bon, il est imparfait, hein, ce qu'on voit, ce qu'on sent depuis 3 ans. L'économie iranienne, comment elle se porte justement? Est-ce que ça serait un coup aussi terrible porté à cette économie iranienne, cet accord dénoncé par le président Trump?
Je pense qu'il serait très utile de regarder ce qu'est l'économie iranienne, oui, et comment c'était géré depuis la révolution. Ça a passé des périodes très difficiles. Il y a eu 8 ans de guerre Iran-Irak pendant les années 80.
80-88.
D'accord. Il y a eu des sanctions américaines qui sont en place depuis 39 ans. D'accord. L'économie iranienne a surmonté tous ces problèmes. D'accord. L'économie...
C'est une économie résiliente?
C'est une économie de résistance.
Résistance.
Et une économie qui est devenue résiliente.
Oui.
D'accord?
D'accord.
Je pense qu'il ne faut jamais oublier ça de vue. Et il est vrai que les Iraniens espéraient avoir une ouverture beaucoup plus importante et de l'investissement étranger, mais sachez qu'ils savent gérer une situation difficile. Mmh. Prenons toutes les années 80 où les seuls qui les ont soutenus, c'est la Corée du Nord. Et peut-être un petit peu la Syrie. Et donc, ils ont solidifié le régime. Je pense qu'il ne faut jamais perdre ça de vue. C'est vrai un autre aspect également, c'est que l'économie iranienne, dans les années... Début des années 2000, d'accord, avait avec l'Europe des échanges d'environ 25 milliards d'euros par an, d'accord. Pendant cette période-là, il n'y avait pas d'intervention économique américaine et tout le régime américain de sanctions était en place. Ce qui a cassé l'économie iranienne, qui est retombée de ces 25 avec l'Europe jusqu'à 5 ou 6, c'était l'alignement des Européens
avec
sur les sanctions américaines en 2012.
C'était durant le second mandat du président Ahmadinejad.
Voilà. Et je pense que il faut voir que l'Europe a un rôle fondamental à jouer.
Alors, on va voir justement la marge de manœuvre de l'Europe, le vrai pouvoir de l'Europe, parce que les sanctions, Olivier Appert, Christophe Heck, les sanctions américaines, je cite le président américain, prendront pleinement effet à partir du 4 novembre. Tout pays qui aidera l'Iran dans sa quête d'armes nucléaires pourrait aussi être fortement sanctionné par les États-Unis. Au fait, quelles sont-elles ces sanctions? Est-ce qu'on le sait au moment où on se parle ce mercredi soir, justement? Est-ce que c'est vraiment clair? Ce qu'on dit, ça va viser le secteur pétrolier iranien, ça va viser les transactions en dollars, les exportations aéronautiques vers l'Iran, le commerce de métaux, etc., etc. Qu'est-ce qu'on sait exactement ce soir? Olivier Appert.
Aujourd'hui, rien n'a été précisé sur la mise en œuvre des mesures. Quelles sont les mesures d'embargo qui vont être complémentaires, qui vont être menées? Je crois que c'est le grand point d'interrogation.
Christophe Heck, Gida.
Oui, ce que il y a effectivement Trump dans son discours, on l'a tous entendu, marteler surtout le nucléaire, qui donne un peu de crédibilité à ses accusations. Après, bon, et ensuite Bolton, lui, tire tous azimuts, c'est tout le monde tout. L'OFAC, qui est un peu plus sérieux, qui est le Trésor américain, a sorti dans la nuit, enfin hier soir très tôt, des guidance, des guides pour les investisseurs, où ils font quoi? Ils disent qu'ils remettent les sanctions, ils vont remettre les sanctions telles qu'elles existaient avant les accords. Mais ils parlent pas des sanctions complémentaires qui ont été annoncées politiquement.
Je cite Steve Mnuchin, secrétaire au Trésor, qui dit que les États-Unis vont retirer Airbus et à Boeing les autorisations de vendre des avions de ligne en Iran. L'Iran qui a commandé 100 exemplaires, par exemple, à Airbus. Et les pièces détachées, elles viennent d'où? Elles viennent des États-Unis, par exemple.
C'était écrit, annoncé. Les accords, les licences seront supprimées.
Est-ce que ça vous semble quand même assez large, quand même, finalement, le fait que Trump dénonce l'accord sur le nucléaire, c'était attendu, il l'avait dit pendant la campagne. Mais ce qui apparaît quand même comme nouveau, c'est le côté un peu l'option la plus radicale, c'est-à-dire on agit vite, dans 6 mois les entreprises doivent se mettre d'équerre, et le spectre il est quand même assez large.
Ce qui est gênant, parce qu'il faut voir la position de l'Europe, mais ce qui est gênant, c'est qu'ils menacent le monde entier. Ce qu'ils peuvent sortir, ils n'étaient pas vraiment rentrés dans l'accord. Il n'y a pas de transaction en dollars, pas de finances, les banques n'y allaient pas. Et puis tout commerce avec des produits dits américains, comme l'aéronautique, enfin les aéronefs et autres, étaient soumis à licence autorisation. En fait. Donc on n'allait pas très loin, c'était très limité. Donc qu'ils ressortent, c'est gênant. Et c'est plus le fait de menacer les non-américains de sanctions. C'est ça qui est plutôt gênant. Donc, et beaucoup de sociétés concernées par les investissements en Iran ont aujourd'hui une présence, même très légère, mais ont une présence aux États-Unis. Donc, ce qu'on attend de l'Europe, c'est qu'elle, on vit une période intéressante parce que c'est un vrai test. L'Europe est un. Les États-Unis, Trump piétine un peu les accords internationaux. On a eu l'accord de Paris,
les douanes, etc.
Là, il est en train de dire aux Européens, non seulement je sors de l'accord, mais je vous dicte la conduite. Donc ça veut dire que n'importe quelle entreprise européenne, il n'y a plus de souveraineté européenne ni nationale. Donc une entreprise française est sujette à une décision de quelqu'un qu'on n'a pas élu et qui peut décider de notre futur.
Sommes-nous obligés de suivre les desiderata américains? Voilà, c'est un député centriste qui interpellait cet après-midi le gouvernement. Réponse de Jean-Yves Le Drian.
La décision du président Trump de se retirer de l'accord nucléaire est, vous l'avez dit, une décision unilatérale. C'est une décision américaine qui n'engage que les États-Unis, qui renoncent à tenir la parole donnée. L'Europe restera unie et sera très solidaire.
Bon, Pierre Servan, les Français, les Européens ne sont pas un peu désemparés, parce qu'ils s'attendaient quand même à cette décision, et puis là, une sorte de flottement quand même, et puis...
Oui, parce que vous avez eu une très grosse offensive diplomatique française, relayée par Angela Merkel juste après, et il y avait plusieurs options. On pensait qu'il pouvait y avoir un deuxième refus du quitus donné par les Américains, que les Américains renverraient à l'été le processus, mais là c'était dans l'hypothèse où Trump finalement acceptait qu'il puisse y avoir une sortie pour ce traité. Or, dans sa tête, il est mort parce que ça représente Obama, parce que ça rappelle 79, parce que c'est son alliance avec l'Arabie Saoudite et Israël, donc il est mort. Alors, je dirais pas que les Européens sont surpris, mais ce qui est peut-être surprenant, c'est la brutalité du processus. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce qui a été dit précédemment...
Par Christophe Heck, ouais.
Exactement, c'est que les Européens vont être au pied du mur. Ça fait un bout de temps qu'ils sont au pied du mur, parce que Trump fait péter toute une série de d'accords, déclenche la guerre commerciale, etc. Mais les Européens, donc, c'est un moment majeur, d'autant plus qu'on en parle moins, mais moi je suis frappé de ce que me disent certains spécialistes du renseignement, c'est les offensives chinoises vis-à-vis de l'Europe. C'est le sentiment qu'il y a de plus en plus dans des pays européens de dire il faut qu'on se protège dorénavant de la Chine qui rentre par le haut, par le bas, par au-dessus, quand ce ne sont pas des jeunes espionnes dans les écoles ou dans nos industries, etc. Et donc finalement, l'Europe, la question que pose Emmanuel Macron à Athènes, à la Sorbonne, est-ce que l'Europe va oser être une puissance? Est-ce qu'on va quitter les rives de l'adolescence pour être adulte dans un monde où l'histoire revient et elle est tragique? Donc, c'est vraiment, enfin, tout ce que défend la France depuis l'arrivée notamment du président Macron, ça donnait un nouveau sens sur l'Europe puissance faire face. Eh bien, on va, comment dirais-je, d'une certaine façon, Trump nous pousse dans les retranchements et il n'y a pas que les Américains, d'autres pays, la Chine notamment, le font aussi.
Donc, comment ça, comme disait Christophe.
Exactement.
Mot, Olivier Appert, et puis on revient juste après, on verra justement comment nos industriels, nos Européens pourront continuer à vendre des voitures, des avions, Olivier Appert.
C'est effectivement une opportunité pour les Européens, pour l'Europe d'exister, mais est-ce qu'il est possible d'exister sans s'associer en fait aux Russes et aux Chinois? Les Russes ont pas d'enjeu économique majeur dans cette région, mais un enjeu géopolitique tout à fait majeur. Quant aux Chinois, bien entendu, les enjeux énergétiques et économiques sont tout à fait majeurs. Est-ce que on pourra, Europe, Chine, Russie, effectivement, nouer des accords
pour essayer... D'accord, bien sûr. Allez, on retrouve les décodeurs de l'écho dans un instant passionnant, donc ce soir sur BFM Business, à la suite de l'accord sur le nucléaire iranien dénoncé par Donald Trump. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Apparemment, et tout ça reste évidemment à préciser, Donald Trump aurait choisi donc l'option la plus radicale pour les sanctions, pour les visant les entreprises qui commercent avec l'Iran, entreprises y compris étrangères, hein, évidemment. Ça, on va revenir sur cette notion d'extraterritorialité, des entreprises qui ont 3 à 6 mois pour en sortir avant d'être frappées. Donc c'est très très court. Et hier, c'est l'ambassadeur américain en Allemagne qui appelait les groupes allemands à cesser leurs activités en Iran immédiatement. Alors, c'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle pour un certain nombre d'industriels européens, des entreprises françaises notamment, comme par exemple dans l'automobile, dans l'aéronautique. C'est ce que nous raconte Mathieu Sévin.
PSA, Renault et Airbus ont peu de marge de manœuvre. Tous sont déjà installés aux États-Unis, ou ont l'intention de le faire, à commencer par Renault à travers son alliance avec Nissan. Nissan, dont les États-Unis sont l'un des principaux marchés, avec 1/3 de ses volumes. Pour PSA, c'est un peu différent. Si le groupe est absent des États-Unis, la stratégie de Carlos Tavares passe par un retour sur ce marché. La première étape doit bientôt débuter avec l'ouverture de différents services d'autopartage. Rester en Iran pourrait compromettre ce plan stratégique. Et si on regarde maintenant du côté d'Airbus, l'Iran lui a commandé pour 10 milliards de dollars d'avions, comme plus de 10% des pièces détachées d'Airbus sont fabriquées aux États-Unis. L'avionneur risque de ne pouvoir n'aurait aucune livraison sous peine de lourdes sanctions. Tout dépendra du risque réellement encouru. Des négociations vont avoir lieu. Impossible avant cela de choisir entre un marché à fort volume mais peu rentable et le juteux marché américain.
Voilà, et le titre Airbus a perdu 1% aujourd'hui, Peugeot 1,5%. Je cite l'un des responsables du MEDEF que j'avais ce matin en ligne, hein, grand exportateur, qui me disait « Nous rentrons dans une nouvelle période de très forte incertitude. La France, les Européens vont tout faire pour protéger les intérêts de leur entreprise. » Dixit l'Elysée. Comment justement? Tiens, Christophe Heck, associé chez Gide, grand cabinet d'avocats international, et juste après Nigel Coulthard qui préside le think tank Cercle Iran Économie. Comment faire justement? Comment ils vont protéger leurs entreprises, l'Elysée?
Trump, c'est le rapport de force, donc il faut montrer qu'on est fort.
Oui, mais comment ?
Unis, et puis alors, les négociations, on n'a pas le temps. Ça, c'est une bonne idée, mais dans la durée, pour affiner les accords ou en rajouter d'autres.
Oui, mais quand l'Élysée dit qu'on va protéger nos entreprises,
Faut réactiver le règlement européen sur les blocages.
Les lois de blocage, oui, de 96. Qu'est-ce que c'était, racontez-nous ?
Alors, c'était les sanctions américaines pour toute société avec les sanctions secondaires. Enfin, c'est toute société qui commerçait, avait des relations avec le Cuba et l'Iran déjà. Et donc, l'Europe a adopté un règlement qui protégeait, donc qui s'engageait à protéger, qui interdisait aux Américains, de fait, de sanctionner les ressortissants américains, européens, et avec menace qui était commençait à être mise en œuvre de les poursuivre devant l'OMC pour obtenir les sanctions.
Ça a été utile
parce que ça a permis aux Européens de négocier des exemptions et de permettre aux sociétés de travailler. Après, cet accord est tombé un peu en désuétude, notamment sur l'Iran à cause des problèmes nucléaires qui ont amené les sanctions européennes. Mais on a l'arsenal juridique qu'il faut réactiver et adapter.
On a l'arsenal juridique, mais est-ce...
Il faut aller plus loin même que ça, parce que je pense qu'il faut aussi trouver un moyen au niveau européen. On a une monnaie européenne, l'euro, qui devrait pouvoir servir.
Alors justement, criez pas les États, parce qu'on jouerait que c'est des points trop importants justement pour qu'on les survole comme ça. Il y a ce règlement européen qu'on pourrait activer très bien. En même temps, est-ce que ces entreprises... ont intérêt à se fâcher avec les États-Unis, Nigel Coulthard. C'est bien de brandir le règlement européen, c'est loi de blocage.
Il protège.
Oui. Il protège. Alors, allez-y, Nigel.
Il y a un très bon exemple au Canada.
Oui.
Le Canada a interdit aux sociétés canadiennes d'accepter les dictats américains. C'est un petit peu ce que vous dites. Oui. Voilà. Mais dans ce cas, c'est pas les sociétés européennes qui se fâchent avec les États-Unis. C'est l'Europe. Il faut que l'Europe définisse un cadre pour s'affirmer et dire voilà, enough is enough. L'extraterritorialité, donc les sanctions secondaires.
Bruno Le Maire, il dit c'est plus important encore que le problème économique, c'est le problème de principe d'avoir des sanctions extraterritoriales. Ouais. Rappelez-nous justement, est-ce que ça rappelle pas un petit peu la sanction qui avait frappé BNP Paribas il y a Bon, 5-6 ans.
Oui, mais je veux dire...
Voilà.
C'est ça, mais je veux dire, dans ce cas, BNP a fait tout ce qu'il fallait pas faire.
Bon, d'accord, alors c'est peut-être pas le bon exemple, pardonnez-moi, mais cette notion de sanction extraterritoriale, est-ce qu'on doit se scandaliser? Est-ce qu'on doit dénoncer ça? Bruno Le Maire, dites-nous, Nigel Poultard.
On parle de l'intervention de l'Europe. Il faut que l'Europe s'affirme. Peut-être je suis un peu optimiste, mais il faut que l'Europe se défende. Et le meilleur
comment
avec sa législation, comme les Canadiens l'ont fait, comme les constitutions européennes permet de le faire en 96, et puis également sur un volet bancaire. Il faut que l'Europe met en place tous les outils bancaires de transfert.
Qu'est-ce qui existe
sur l'extraterritorialité des sanctions américaines? Il y a un très bon rapport qui a été rédigé par Berger et Lelouch sur le sujet, et qui propose certaines solutions tout à fait pratiques, qui couvrent d'ailleurs la situation actuelle. Je l'ai regardé hier soir à 5 minutes, et pour le coup, c'est un consensus du Parlement français à l'époque, donc gauche-droite. C'est notamment les lois de blocage, s'affirmer vis-à-vis des Américains, la réciprocité dans les sanctions, etc. exister souverainement.
Pierre Servent, auteur de 50 nuances de guerre.
Alors je crois effectivement qu'il faut aller dans ce sens-là. Je crois vraiment, pour arriver à peser dans ce concert. Le problème, c'est que l'une des résultantes immédiates de tout ça, à mon sens, dans une économie qu'on dit un peu fragile ou qui pourrait revenir à des zones de fragilité après une période plutôt euphorique, l'accumulation de ces mécanismes-là entre guerre commerciale sur acier, aluminium, les conséquences, y compris, même si encore une fois je défends le fait que l'Europe adopte finalement une posture canadienne face aux Américains, enfin quand même, le résultat de tout ça, à mon sens, c'est pas excellent pour le business. Or, les désordres de guerre, les tensions, le djihadoterrorisme se nourrit depuis des décennies du malheur des peuples. C'est-à-dire, c'est un cancer qui vient se mettre sur les zones fragiles et fragilisées. Or là, nous avons une perspective, malheureusement, à mon sens, de fragilisation par rapport à ça. L'autre point aussi qu'on peut mettre en avant, connaissez le penseur marxiste italien Gramsci, qui est l'inventeur du concept d'inhibition, qui expliquait que les classes dominantes arrivaient à inhiber les ouvriers par une posture de domination, et que finalement, l'ouvrier, in fine, intégrait sa propre domination et ne se révoltait pas. Le problème, c'est si un certain nombre d'entreprises européennes ou d'autres pays ont intégré le concept d'inhibition par rapport aux États-Unis et finalement préfèrent négocier en sous-main avec les Américains ou se soumettre de facto à la loi américaine, même si nous avons des lois européennes, etc. Là on a aussi ce problème, c'est que ce géant américain pèse de tout son...
Alors, si Christophe Peck, Olivier Appert, Nigel Coulthard,
si
allez-y,
on
Christophe
prend l'exemple de 96 et après, les entreprises françaises réinvestissaient en Iran en début des années 2000. Ils étaient protégés par ça. Donc, c'était des groupes qui étaient présents aux États-Unis. Donc, je pense que cette mise en œuvre de cette loi de blocage et les menaces de sanctions et de poursuites devant l'OMC ont amené les Américains à négocier et à accepter. Ouais.
Donc, Bruno Le Maire dit il n'est pas acceptable que les États-Unis soient le gendarme économique de la planète, c'est pas uniquement une posture, il peut justement déclencher.
Il a raison, mais il faut maintenant passer aux actes.
Alors Olivier Appert, avec nous,
moi je
membre de l'Académie des technologies.
Je partage un peu le scepticisme de Pierre Servent. C'est-à-dire que pour les entreprises, l'extraterritorialité, c'est un fait. Et donc, il faut faire avec. Alors, on peut espérer que dans un délai de 3 mois ou 6 mois, ce qui est quand même très très court, on réussira au niveau européen à engager, à mettre en œuvre des réactions sérieuses et crédibles. Mais là, toutes les entreprises chercheront, je pense que la plupart des entreprises chercheront à obtenir des exemptions.
À contourner.
Et notamment, je pense notamment à une intervention du président de Total qui avait dit que il chercherait à obtenir une exemption pour pouvoir continuer son projet en Iran.
Bien sûr. On va chercher des entreprises comme ça, vont essayer au cas par cas de contourner justement.
Je pense que
Nigel Coulthard.
Ça va être sûrement l'approche des entreprises qui sont très pragmatiques. Mais je pense que on peut déjà tirer quelques leçons de Monsieur Trump. On a en face de nous un brute.
Une brute.
Voilà. Oui. Brute. Et le seul langage qui comprend, c'est un langage de fermeté. Donc, l'Europe doit tenir un langage aussi dur que lui. Les entreprises vont trouver la solution. Oui. Mais politiquement, il faut remettre en place un cadre juridique et un cadre financier.
Alors justement, le cadre financier, on traite en euros, en dollars. C'est quoi le rôle du dollar? Christophe Heck, tout à l'heure, vous avez commencé à l'aborder. Est-ce qu'on peut envisager uniquement des transactions en euros entre l'Iran, les Allemands, les Français, les Espagnols, etc., etc.
Alors, ce qui se fait, c'est le dollar est une exception. C'est soumis, c'est les autorisations pour Boeing et autres, mais c'est soumis à autorisation et à licence. Non, ben, les transactions en euros. Mais le problème des transactions en euros, c'est qu'il faut qu'il y ait des virements, il faut qu'il y ait des SWIFT, et donc les banques occidentales, les grandes banques européennes sont tétanisées.
Ils ne vont pas prendre le risque.
Non, même si le cadre légal leur permettrait de le faire. Les Américains sont tellement malins dans le sens méphistolien du terme qu'ils pourraient se faire sanctionner. Vous parliez de BNP tout à l'heure, c'était un peu, le sujet était plus complexe, mais c'était aussi ça, c'était avoir violé ou contourné de ce que disent les Américains les sanctions. Et donc c'est le problème. C'est pour ça que la BPI avait travaillé sur un cadre qui permet d'isoler l'Europe. On devrait le faire au niveau européen. Donc, est une tuyauterie qui n'est qu'en euros, qui est isolée, protégée.
Tout à fait envisageable.
Après, il y a d'autres devises. Hein.
C'est tout à fait envisageable.
C'est faisable. Techniquement, c'est faisable. Après, il faut une volonté politique et que les banques soient soutenues et protégées par le politique.
Ouais, les États-Unis eux-mêmes, parce qu'on a parlé des conséquences sur les entreprises européennes, on a parlé des conséquences sur l'Iran. Les États-Unis, est-ce qu'ils ne risquent pas aussi de subir des conséquences? La hausse du pétrole, par exemple, dont on parlait tout à l'heure avec vous, Olivia Père. Le consommateur, l'électeur de Donald Trump, quelque part, est-ce qu'il va pas être pénalisé aussi?
Il sera pénalisé, mais les producteurs d'hydrocarbures non conventionnels aux États-Unis en profiteront encore plus. Donc, en fait, la balance au plan politique est peut-être plus contestable.
Quand vous disiez tout à l'heure que l'Arabie Saoudite pouvait prendre les mesures nécessaires, prendre le relais quelque part s'il y a une baisse d'approvisionnement, c'est aussi une façon pour Trump de pousser l'Arabie Saoudite à compenser cette baisse de pétrole iranien. Et on revient justement dans ces alliances dont nous parlait tout à l'heure Pierre Servant, auteur de 50 nuances de guerre. Olivia Père.
Oui, mais pour Trump aussi, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça va renforcer les investissements dans le domaine pétrolier et gazier aux États-Unis.
Bon, pour conclure,
c'est une manière, aussi une manière de faire payer aux Saoudiens l'investissement américain dans la zone. Enfin, il y a des contreparties, donc ils vont produire le pétrole pour pas que le prix soit trop élevé à un niveau qui satisfasse tout le monde.
Pierre Servant.
Oui, et ça montre encore une fois que le projet de l'Union européenne, sa consolidation, c'est le grand projet politique de cette époque. Et il faut notamment que les jeunesses européennes, se rendent compte que c'est à eux de s'engager aussi pour que cette Union européenne vive. Sinon, les forces que j'appelle barbares et tyranniques qui poussent un peu partout dans le monde, gagneront sur ce que représente l'Union européenne, qui est reconnue par des tas d'autres pays, comme l'un des derniers lieux où on se parle à plusieurs, où Malte, qui pèse 400 000 habitants, parle à l'Allemagne, qui en fait 80. Et donc, l'Union européenne, encore une fois, mais il faut qu'encore une fois, elle ose exister par elle-même. C'est son défi. Les historiens, nous jugerons, regarderons ce que nous avons fait de cet héritage formidable qui doit être maintenant actif.
Bon, à la fin de ces décodeurs de l'écho, vous êtes toujours aussi pessimiste ou pas, Pierre Servant, par rapport au début, ou alors Nigel Coulthard vous a un petit peu
Je reste très préoccupé. Parce que si vous voulez, d'abord, on a parlé de Trump, mais je veux dire, Trump, c'est aussi le mensonge. C'est ça qui est compliqué. C'est notre allié, c'est un occidental.
Pourquoi mensonge?
Et c'est un bidonneur.
Mais il l'avait dit qu'il.
Il a annoncé la couleur. Oui. Ça, il fait. Mais je veux dire, expliquer que l'Iran est le grand responsable du terrorisme international, alors que les États-Unis sont les alliés, c'est un peu comme George Bush qui attaque l'Irak, la majorité des kamikazes du 11 septembre sont des Saoudiens. On dirait, les fake news sont pas nouveaux. Mais là, on a un partenaire. C'est compliqué aujourd'hui de nouer des relations quand vous avez des tas de partenaires qui mentent, qui racontent des bobards. Donc arriver à déjà que c'est compliqué si on se parle
et
en vérité.
Netanyahu aussi.
Donc la partie est pas simple.
Bon, allez, tout est dans 50 nuances de guerre. Évidemment, précipitez-vous pour ce long week-end de l'Ascension. Il y a encore quelques jours fériés, justement. Merci, Pierre Servant. À très bientôt.
Merci.
Olivia Père, membre de l'Académie des technologies, conseiller du Centre Énergie de l'IFRI. L'avocat Christophe Heck, associé dans le cabinet international GIDE. Et puis Nigel Coulthard, ancien patron d'Alstom en Iran, à la tête du think tank CIE, Cercle Iran Économie. On revient le plus vite possible avec les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.